Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans l'estival du local. Ça y est, peut-être que vous commencez à vous habituer à cette nouvelle signature musicale. On a un nouveau jingle. Merci Joël d'ailleurs pour cet été. Puisqu'on reste là aussi sur l'actualité mayonnaise, mais sur un rythme un petit peu différent. Alors pas forcément le rythme, mais en tout cas le format. Puisqu'on reste en quotidienne, mais sur un format un petit peu plus court. Et puis beaucoup moins en lien avec l'actualité. Ça va pas nous empêcher de parler effectivement de celles et ceux qui font bouger la Mayenne et puis de ce qui constitue bah aussi tout ce qui est ce qui fait que c'est sympa d'être, de passer l'été ici en Mayenne. Et on continue d'ailleurs, ce sera notre troisième et dernière émission consacré à Planète en Fête qui avait lieu ce week-end à Cran. C'était le retour dans le sud Mayenne pour l'événement organisé par le Civambio 53. Et puis donc il y avait au programme beaucoup de conférences, des ateliers mais aussi des stands hein, présents tout au long du week-end. On a parlé mardi et hier de celui du Ripper Café et on va s'intéresser aujourd'hui à celui de Terre de Liens qui soutient les projets d'installation d'agricultrices et agriculteurs en bio. Explication avec Catherine Renoux, bénévole et sociétaire de Terre de Liens.
Terre de Liens est une association en Pays de Loire et une foncière au niveau national. C'est-à-dire que Terre de Liens achète des fermes, alors sur proposition d'un porteur de projet, d'un paysan qui est prêt à s'installer, qui a trouvé la ferme qu'il souhaitait travailler, et par contre l'achat de cette ferme le met en difficulté au niveau de la trésorerie hein, au niveau d'emprunts bancaires qui seraient trop lourds à supporter. Donc il peut faire appel à Terre de Liens et soumettre son dossier. Donc si le dossier est accepté et que Terre de Liens donc accepte d'acheter cette ferme, la ferme est ensuite mise en location, ce qui fait des charges beaucoup moins importantes pour le fermier. Il y a, on va dire, 12 ou 15 ans, je ne connaissais pas Terre de Liens. Mon fils était ami avec des jeunes qui étaient en cours d'installation autour de Laval, à Montflour, donc qui étaient en cours d'achat par l'intermédiaire de Terre de Liens de la ferme de la Gouronnière. Le principe, enfin, qui est demandé aux porteurs de projets, aux futurs fermiers, c'est de trouver, on va dire, au moins 70% du montant de la ferme en part sociale, c'est-à-dire que le Terre de Liens fonctionne sur un principe d'épargne citoyenne et solidaire. Et donc ce sont des citoyens comme vous et moi qui vont pouvoir déposer leur épargne à Terre de Liens au lieu de la mettre à la banque. Quand le montant de la ferme est atteint, Terre de Liens achète et le fermier peut s'installer. À partir de là, eh bien, le fermier est maître de sa production. Terre de Liens ne met pas le nez, on va dire, dans le quotidien de la ferme. Mais par contre, va continuer à gérer les travaux sur le bâti, sur le gros œuvre en particulier, des travaux d'aménagement, de salles de trade. Alors après, le fermier est un fermier Terre de Liens jusqu'à la fin de sa carrière, s'il le souhaite. Voilà. L'avantage alors pour les fermiers, c'est que donc il n'y a pas cette charge sur le foncier hein, à assumer dès l'installation. On est sûr, alors le fermier par contre doit s'engager à faire une agriculture biologique. Et du coup, on est sûr que cette ferme va rester en agriculture biologique, puisque Terre de Liens ou passeurs de terre vont être propriétaires à vie de cette ferme. Et de ce fait aussi, il n'y aura pas de revente de la ferme. C'est uniquement le fermier qui va changer si, au cours de la fin de carrière. Pas de revente et pas de spéculation financière sur le prix des terres. Et vu du côté sociétaire du citoyen qui a envie de mettre son épargne dans ses projets, eh bien c'est l'assurance aussi que notre épargne va être bien utilisée. Les adhérents à l'association Pays de Loire reçoivent des nouvelles des fermes, sont invités quelquefois sur des visites ou d'aller rencontrer les fermiers. En Mayenne, nous avons 6 fermes Terre de Liens et une ferme passeur de terre. Au 1er août 2022, une des fermes change de fermier. Il va y avoir une visite là, comme un peu un état des lieux, dire au revoir à l'ancien fermier, bonjour au nouveau. et avoir des nouvelles un petit peu de cette ferme. Cette ferme de Montflour, donc, qui m'a permis de m'investir et de découvrir le mouvement, est un exemple caractéristique d'une ferme diversifiée, puisqu'il y a 5 associés, 5 ateliers différents de production, donc maraîchage, élevage, boulange, du pain, transformation laitière, production de céréales, etc. Il y a des fermes en maraîchage, des fermes en élevage. Le médiateur foncier, donc, qui est basé en Maine-et-Loire et qui est l'unique salarié foncier qui étudie tous les dossiers, est très très sollicité, trop sollicité. Effectivement, il y aurait besoin de plus de salariés pour pouvoir répondre à la demande, quoi. Qu'on a besoin à la fois d'épargnants qui laissent leur épargne, voilà, au profit, parce que donc ces parts sociales ne sont utilisées qu'à l'achat des fermes, et tout ce qui est fonctionnement associatif à côté, c'est soit par des adhésions, des dons, autres. On peut dédier son épargne à un projet particulier si on voit qu'il y a une ferme qui est en cours d'achat. On peut dire, moi je voudrais aider ce projet-là, je veux que mon argent aille particulièrement à cette ferme-là, ou si on n'a pas de choix particulier, voilà, eh bien l'épargne ira à aider les fermes qui sont en cours d'installation dans un des départements des Pays de Loire. Les paysans qui font appel à Terre de Liens ou à Passeurs de Terre sont des personnes souvent qui ne veulent pas être propriétaires. C'est-à-dire qu'ils considèrent que la terre est un bien commun. Donc ils ont envie de travailler cette terre et de l'améliorer, si possible, le temps de leur carrière. Et après, de passer ce travail à quelqu'un d'autre.
Et si vous êtes intéressé, toutes les infos sont à retrouver sur le site internet terredeliens.fr. On est jeudi, jeudi égale 4e épisode de notre feuilleton de la semaine consacré, vous le savez maintenant, au château de Lignières à Balay à Val-du-Maine. Il y a 7 ans, Julien Ostini et sa compagne Véronique ont acheté le château. Un rendez-vous estival et original s'est rapidement imposé, un opéra participatif, et oui, associant des chanteurs professionnels et de nombreux bénévoles. Et le prochain est prévu d'ici 2 petites semaines, précise Julien Ostini.
Cette année, on va faire Faust de Gounod, qui est un des opéras les plus célèbres de l'histoire de l'opéra, qui a été dans les 2-3 opéras les plus joués dans le monde. Et il y a même le Chœur des soldats qui a failli être notre hymne national. Donc c'est pour vous dire comme Faust s'est enraciné dans la culture française. Et donc oui, cette année, c'est la 6e édition de ce projet qui est absolument unique et novateur en France. On arrive à créer un opéra de qualité de maison d'opéra. C'est-à-dire qu'on peut voir Faust comme on le verrait sur une grande scène en allant à Angers ou à Paris. Seulement, on le produit, on le fabrique ici, en Mayenne, avec les écoles, avec toutes les personnes qui ont envie de venir à l'atelier couture, à l'atelier costume. On héberge les artistes. Les artistes viennent de toute l'Europe maintenant pour participer à ce projet. On a une distribution assez extraordinaire avec Marc Lao, Christelle Di Marco ou Nicolas Cavalier, qui sont des gens qui chantent sur les plus grandes scènes et qui viennent. Quelque chose qui est assez unique. Et en plus, ma fierté supplémentaire, c'est que ce projet est fait avec une vraie volonté de ne pas détruire l'environnement qui est autour de nous. Donc on fait tout en matériaux recyclés, tous les costumes sont faits en tissu recyclé. Donc c'est des opéras qui sont bien fabriqués et créés, mais avec une méthodologie 21e siècle, on peut faire avec tout ce qui nous entoure plutôt que d'acheter ou de reproduire des matériaux. Et ça permet de mettre en place un projet que plus de 3000 personnes peuvent voir cet été pour 15€, et c'est gratuit pour les enfants. Il faut ça, on vient en famille avec des amis, on amène sa chaise, on s'assoit dans le parterre, il y a l'entracte, on boit des coups, on mange du couscous, on rigole et on vous apprend à chanter même des extraits, vous chantez avec nous, ça passe à travers, enfin, on le fait comme ça se faisait avant, comme on faisait l'opéra à l'époque de Verdi ou de Mozart, en faisant la fête tranquillement. Et l'idée, c'est que chacun puisse au moins une fois dans sa vie ou plusieurs fois, si ça vous a plu, se dire j'ai vu, j'ai goûté, j'ai aperçu ce que c'était comme aventure l'opéra. Il y a une forte responsabilité des institutions et de la façon dont on fait de l'opéra maintenant depuis une 40aine, 50aine d'années, mais L'opéra avant, c'était le Marvel de l'époque. On allait à l'opéra pour s'amuser, évidemment pour pleurer, mais parce qu'on a tous besoin de pleurer. Je veux dire, qui trouve que tout va bien? On n'est pas là pour vous donner un cours de musicologie, il n'y a pas besoin. C'est vraiment comme c'est le cinéma de l'époque, c'est l'émerveillement, c'est les grands effets spéciaux, c'est à l'opéra qu'on invente les grandes transformations, les cintres, les trappes qui s'ouvrent, qui se dérobent. C'est là où on invente tout ce qui va devenir la science-fiction, les effets spéciaux plus tard. Donc, l'idée, c'est de retrouver ce qu'était l'opéra et sa place juste, c'est-à-dire sa place, c'est un endroit festif, sans prétention, où on a juste, nous, envie de vous transmettre une histoire, du beau et des émotions, mais en toute simplicité. Pour chaque parcours de bénévole, c'est un peu différent. Moi, je dirais que c'est bénévole, on a l'impression que c'est un peu des esclaves qui travaillent. Moi, je parle plutôt de citoyens volontaires qui s'engagent dans une démarche pour justement, c'est beaucoup de la formation en réalité ce qu'on fait. C'est chacun vient, apprend, échange avec l'autre. À partir de septembre, on fait le bilan de l'édition précédente. À partir de novembre, on décide quel est l'opéra de l'année d'après. On fait les maquettes, on produit le dessin, les idées. À partir de là, on a une première réunion, puis il y a les premières équipes qui se mettent en place pour le décor, les costumes, enfin toutes les choses qui sont à fabriquer, ressourcer. Comme je vous disais, on fait le choix de la démarche RSE. Du coup, recycler, c'est compliqué. Enfin, c'est plus difficile que d'aller sur Amazon et puis de commander des matériaux qui arrivent le lendemain. Il faut sourcer, il faut rechercher, il faut convaincre, il faut récupérer. Donc tout ça, ça prend pas mal de temps. Il faut après tout transformer, tout modifier. Donc ça, c'est des engagements au long terme. Après, on a toutes les équipes qui s'occupent de l'hébergement, parce que tous les artistes sont hébergés chez les habitants autour. Donc c'est à chaque fois plus d'une centaine, voire 120 lits, 120 maisons qu'il faut trouver. Et puis le rythme s'accélère à partir du mois de juillet. Par exemple, on commence à monter tout ce qui est les infrastructures techniques. Donc le grill, la scène, ce qui est énorme, c'est une des plus grosses scènes de l'ouest de la France pour du spectacle vivant, comme ça en extérieur. À partir du 9 juillet, on a le chœur qui arrive pour commencer les premières répétitions. Le 12 juillet, on a l'orchestre. Et à partir de là, on sera plus de 250 sur le site quasiment en permanence. On a tous les figurants. La figuration enfant, la figuration adulte, et puis on répète les spectacles jusqu'à minuit tous les soirs pour faire les créations lumière toute la nuit, et puis on arrive au spectacle 21, 22 et 23 juillet. Nous, on a fait un tiers lieu autour de la culture et du patrimoine, de la nature, parce que c'est les choses qui nous parlent, qu'on sait faire, qu'on maîtrise, mais c'est pas les seules choses, il y a plein d'autres choses qui peuvent être faites. Nous, l'idée, c'est que ce lieu, il vive et que tout le monde s'en empare, quoi. Et qu'il n'y a rien de plus génial pour nous de voir des gens ici s'amuser ou boire un verre ou couper des planches. Enfin, voir des gens qui s'activent, qui ont du plaisir à être ensemble et puis créer du lien. C'est ça qui nous paraît hyper intéressant, c'est que les gens se rencontrent. On noue des amitiés, on découvre des gens, on découvre un territoire et... C'est ça qui nous enchante.
Et d'ailleurs, on peut toujours intégrer l'équipe comme bénévole jusqu'à dimanche, que ce soit pour être figurant ou bien aider en coulisses selon vos envies et puis vos compétences. Les contacts sont à retrouver en ligne sur linière.fr. Et demain, pour ce dernier épisode, vous entendrez l'un des participants de l'atelier couture qui nous expliquera son travail. Merci beaucoup pour cette nouvelle émission. En tout cas, merci de nous suivre encore cet été. On vous donne rendez-vous justement demain pour la dernière estivale du local de la semaine. Je vous rappelle encore les horaires. Donc, c'est bien 7h30 le matin et 12h15. Très belle journée.